Réseaux sociaux, achats en ligne, télétravail et visioconférence. Nos activités se déroulent de plus en plus dans l'espace numérique. Une sorte de Far West 2.0 où les géants du net feraient leur loi. Thierry Breton, en charge du dossier numérique à Bruxelles, a entrepris d'y remettre de l'ordre.
On est bien souvent dans des espaces de non-droit. La dernière régulation date de 2000. 2000, aucune, quasiment aucune des grandes plateformes n'existait.
Pour accompagner la révolution numérique, Bruxelles propose donc de faire une énorme mise à jour des pratiques du web. Thierry Breton et Margrethe Vestager, sa consœur en charge de la concurrence, ont présenté aujourd'hui deux projets de législation. Le règlement sur les services numériques sommera les plateformes de modérer davantage les propos des internautes pour éviter les discours de haine à grande échelle et la manipulation de l'information. Le règlement sur les marchés numériques imposera lui plus de transparence sur l'utilisation des algorithmes et des données personnelles qui sont au cœur du modèle économique des GAFA. Face à l'offensive de Bruxelles, les géants américains du web ont déjà commencé leur opération de lobbying dans la presse internationale.
Le projet de la Commission risque d'aboutir à des règles brutales et rigides.
Alors les GAFA doivent-ils trembler face à Thierry Breton et Margrethe Vestager? L'Europe peut-elle s'imposer face aux mastodontes du numérique? Ou est-il déjà trop tard pour changer les règles du jeu?
Pourquoi les pays ont-ils attendu un Digital Services Act de l'Union européenne au lieu d'agir individuellement contre les GAFAM, Nicolas Bouzou? Qu'est-ce qui empêche la France de limiter les activités d'un Amazon ou d'un Airbnb, par exemple, toute seule de son côté, sans attendre que les autres pays suivent?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une question qu'on peut pas régler tout seul, alors, et que même l'Europe, d'ailleurs, peut pas régler toute seule, c'est la question de la fiscalité. Donc, il y a des choses, qui avancent au niveau de l'OCDE. Il faut pas laisser penser que ça n'avance pas, parce que il y a des travaux qui vont vraiment dans le bon sens, mais il faut mobiliser plusieurs dizaines de pays, et donc, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Concernant les questions de concurrence, il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été faites. Alors, ce sont des sujets qui sont très compliqués techniquement, parce que la nature de la concurrence a changé en 100 ans. On n'est plus du tout dans l'économie du 20e siècle, mais il y a déjà des amendes qui ont été prononcées contre Google en Europe. Donc là, on renforce les choses, mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Là où je suis vraiment d'accord avec l'internaute, c'est sur la question des contenus en ligne et des contenus haineux, où là, je trouve en effet... l'Union européenne fait des choses, mais je trouve qu'on a vraiment énormément attendu par rapport à des dysfonctionnements qu'on remarque depuis des années.
Alors justement, quel est votre chiffre du jour?
20 ans, vous en parliez, Nicolas Bouzou. La dernière réglementation européenne en matière numérique date de 2000, c'était il y a très longtemps. Les géants du numérique n'étaient encore que de jeunes pousses, voire n'existaient pas. Alors justement, Joël Teledano, on se demande pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour voir naître cette constitution numérique, même si je sais que vous n'avez pas le mot, mais tout de même, 20 ans, pourquoi? Il y a
Digital
tellement de problèmes
act.
Qui s'étaient accumulés, pourquoi 20 ans?
Parce que si vous aviez posé la question à M. Bouzou il y a 5 ans, il vous aurait dit qu'il ne faut absolument rien faire. Parce qu'il y avait un... En matière économique, peut-être pas sur les contenus, mais en matière économique, je suis prête à prendre le pari. Mais il n'était pas seul. Et donc... Parce que à cette époque-là, globalement, le diagnostic qui était fait partout, c'était que le bilan, comme on dit en jargon, coût-avantage, était favorable aux avantages. Et si vous prenez les textes de la Commission européenne il y a 5 ans, mais pas que les textes de la Commission européenne, vous pouvez aller chercher un peu partout, dans les endroits où aujourd'hui il y a une absolue convergence, la position était celle-là pour plein de raisons qui mélangeaient une incompréhension de ce qui était en train de se passer. Monsieur Bouzou l'a dit. Non, mais c'était une incompréhension.
C'est pas personnel.
Absolument. Une incompréhension des analyses économiques. Il y a eu beaucoup de progrès dans la compréhension de ce qui se passait. On était fascinés aussi par un certain nombre de choses. Et donc, vous vous trouviez dans une situation où, effectivement, on avait cette impression-là. Et c'était pas fou. Je dirais que jusqu'à il n'y a pas encore longtemps, macroéconomiquement, on estimait que c'était positif pour l'innovation. D'accord. Et aujourd'hui, on dit que ce qui se passe, c'est négatif pour l'innovation.
Alors, Nicolas Bouzou, qu'est-ce que ça va changer concrètement, ce Digital Services Act? Prenons un exemple très concret sur la haine en ligne, puisque ça nous a préoccupé ces dernières semaines, bien évidemment, avec l'assassinat de Samuel Paty.
Non, mais sur la haine en ligne, en réalité, on n'avait pas fait grand-chose, puisque depuis les premières réglementations européennes, on considérait que les plateformes étaient simplement des tuyaux, et donc elles n'étaient absolument pas responsables de ce qui était
C'était
diffusé.
De simples hébergeurs donc, passifs.
Exactement.
Irresponsables.
Oui, tout à fait. Mais ils l'étaient, enfin, je veux dire, juridiquement. Donc là, les choses changent, puisqu'on va leur demander, ce qui, à mon avis, est très important, une obligation de moyens. C'est très difficile de leur dire, il n'y a aucun contenu parce que comprenez bien que vous avez des algorithmes, des intelligences artificielles qui peuvent diffuser sur les réseaux sociaux des contenus haineux très rapidement et donc à l'impossible, nul n'est tenu. En revanche, ce qui est possible et ce qu'on doit demander à ces entreprises et ce que certaines ne faisaient pas, c'est de consacrer une part importante de leurs moyens à développer des algorithmes qui vont repérer des contenus haineux,
c'est-à-dire
des photos.
C'est-à-dire ce qu'on appelle la modération, mais qui aujourd'hui, le plus souvent, en fait, effectivement, par des algorithmes.
Mais il faut les deux, en fait. Ouais. Il faut à la fois des algorithmes, mais ça coûte très, 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 très cher. Hein. C'est-à-dire que ce sont des milliards d'euros, hein, parce qu'il faut vraiment investir énormément. Et il faut aussi des gens, parce que les algorithmes, ils ne peuvent pas tout repérer.
Est-ce que la machine, effectivement, sait repérer un
Ça dépend. Elle sait repérer une personne qui est décapitée. En revanche, un contenu du type... si je croise ta fille, il vaudrait mieux pas qu'on se voit.
C'est trop sophistiqué.
Ça, c'est trop sophistiqué, donc ça faut quelqu'un.
Mais alors, Joël Toledano, est-ce qu'on peut imposer à tous ces GAFA d'embaucher des hommes, des femmes, pour vérifier ces contenus? On ne sait même pas combien il y en a aujourd'hui, ou peut-être que vous allez nous dire sur Facebook, combien y a-t-il de troupes pour vérifier cela?
Tant qu'on effectivement, on considère qu'ils sont irresponsables, on ne sait pas combien il y en a. On peut faire tout ça, mais je pense que si on fait ça, le grand gagnant, et uniquement ça, le grand gagnant, c'est Facebook. Parce que,
Pourquoi
tout simplement, c'est le plus riche. Et donc, effectivement, on va avoir un monopole qui va vous mettre beaucoup de gens, mais qui va trouver le moyen de se rembourser ailleurs. Et on ne s'attaquera pas au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est évidemment le modèle économique. C'est pourquoi est-ce qu'il y a tellement de contenu haineux? Bah parce que c'est quand même beaucoup plus rentable d'avoir des contenus haineux que des contenus avec lesquels vous êtes. Et il y a un certain nombre de preuves qu'il donne. Donc je pense que c'est important ce qui est dit, ce qui est fait, la responsabilité. Ça concerne d'ailleurs pas que les contenus haineux. Ça concerne aussi les ventes en ligne et les produits illicites.
Mais en quoi
c'est
ça
tout le problème de...
Comment ? Et la pédopornographie.
Et la pédopornographie. Non, mais c'est le côté de responsabilité, c'est quelque chose qui est transversal à tous ceux qu'on considérait aujourd'hui comme des intermédiaires techniques. Mais, oui.
Non, pardon, je vous coupe, mais juste, pardon, vous avez dit quelque chose qui nous a surpris.
Qui nous interpelle.
Pourquoi est-ce plus rentable les contenus haineux ?
Parce que plus c'est haineux, plus vous avez envie de voir si c'est absurde. Dessus, et plus vous restez. Et l'idée qui a été largement développée par un certain nombre de sociologues et qui vient de l'économie comportementale, hein, c'est qu'effectivement, c'est plus rentable de jouer sur des... Et ça génère plus d'addiction, de jouer sur des comportements qui sont des comportements d'agressivité, si vous voulez. Donc, si vous vous attaquez pas à ça... Et le patron de Twitter le dit très, très clairement dans un podcast. Absolument. Ouais. C'est formidable. D'accord. Et de la même façon, il y a eu des études sur Facebook qui nous le montrent. Donc, le cœur du sujet, c'est de s'attaquer aux mécaniques économiques qu'il y a derrière.
Vous venez, Benjamin.
Nicolas Bouzou, les lobbies sont très importants. On voit bien que Google va être en action contre ces décisions, nouvelles décisions européennes. Qui peut gagner? L'Europe peut vraiment gagner?
Non, mais attendez, l'Europe a déjà perdu puisqu'il n'y a pas de GAFA européen. Non, mais le fond du sujet dont on ne parle jamais, c'est qu'il n'y a pas de GAFA européen. Mais non, il n'y en a aucun.
Il n'y en aura jamais.
Je pense que c'est trop tard. Là. Je pense que sur cette question du numérique, on a pris énormément de retard. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est très particulier dans ces entreprises et ce qui est une césure intellectuelle par rapport au monde du XXe siècle, c'est que plus ces entreprises sont grandes, plus en réalité elles sont efficaces. Plus il y a de gens sur le réseau Facebook, plus c'est facile pour Facebook d'attirer de nouveaux utilisateurs. Plus il y a de gens sur Twitter, plus c'est facile. Plus il y a de gens qui utilisent Amazon, plus... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle dans notre jargon techniquement des rendements croissants. Et ça rend la régulation de la concurrence beaucoup plus difficile qu'il y a 100 ans où on disait, il y a une grosse compagnie pétrolière, paf, on la découpe en morceaux et pour le consommateur, c'est bon. Aujourd'hui, donc il y a quand même, dans notre affaire, il y a de véritables difficultés intellectuelles et puis, du point de vue économique, un échec de l'Europe.
Joël Toledano, vous n'êtes pas d'accord. Est-ce qu'on pourrait démanteler
vraiment,
quand même? Vous dites
si
souvent qu'on peut démanteler Facebook.
Free n'existerait pas. Il y avait des rendements d'échelle formidables dans les télécoms.
Mais
attendez, Qu'est-ce que ça, pourquoi est-ce que Free a existé?
L'opérateur téléphonique, Internet.
Parce que c'est mis en place une régulation asymétrique qui cherchait à générer effectivement de la concurrence. C'est bien l'un des problèmes, et ce qu'il faut qu'on arrive à avoir dans les années qui viennent, c'est non seulement d'empêcher certains comportements, mais c'est largement insuffisant. Il faut rendre possible le développement de la concurrence, parce qu'ils ont tout verrouillé.
Et comment on fait pour rendre possible?
Et comment on fait? Eh bien, on prend chacun des acteurs qui a verrouillé le marché. Grosso modo, dans le cadre des 4 GAFA, il n'y a pas de sujet, ils l'ont fait. Et on regarde comment on peut effectivement générer de la concurrence. Et dans chaque cas, si vous prenez... dans le cas de Facebook, c'est le seul cas où, au fond, on peut, en découpant les opérateurs... régénérer de la concurrence.
Parce qu'ils ont WhatsApp, Instagram.
C'est le seul cas où le démantèlement amène de la concurrence. D'accord. Dans les autres cas, vous avez d'autres méthodes que je vous raconterai une autre fois.
Rédiger ce fameux document qui a fuité, dans lequel il était question de recourir aux services de l'État et de demander l'aide du gouvernement américain pour contrer cette offensive européenne. On sait également que la tech a massivement soutenu la candidature de Biden. Parmi ses donateurs et ses laudateurs, on trouve par exemple le cofondateur de Microsoft ou encore l'ancien président de Google. Mais c'est pas sûr, quand on regarde dans le détail, que Joe Biden leur rende la politesse. Il a régulièrement dit tout le mal qu'il pensait de ces plateformes. Il n'a, dit-il, jamais était un grand fan de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Il a aussi publiquement reproché à Barack Obama d'avoir été trop conciliant avec les GAFAM. Ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur le recrutement, la composition du prochain gouvernement. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, la Maison Blanche va faire barrage peut-être à ce texte-là. Pour faire simple, son équipe a des airs de Silicon Valley. On y trouve des anciens d'absolument partout, de Facebook, d'Apple, d'Uber, d'Airbnb, d'Amazon. On sait également qu'Eric Schmidt, qui est l'ancien PDG de Google, est pressenti pour prendre la tête d'un futur conseil du numérique. Quant à Kamala Harris, la vice-présidente, elle est aussi connue pour les liens très privilégiés qu'elle a noués avec ses patrons de la tech et son amitié avec Sheryl Sandberg, qui est la directrice des opérations de Facebook, lui est régulièrement reprochée dans la presse. Nicolas Bouzou, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la Maison Blanche laisse faire, croise les bras et dise...
Ah non, je crois pas. Moi, je pense que les Américains ont compris, mais récemment, ils l'ont compris, notamment les démocrates, pendant la campagne des primaires, que c'était un outil de puissance pour les États-Unis. Il y avait une candidate qui s'appelait Elizabeth Warren, qui, était vraiment très véhémente contre les GAFA. Bernie Sanders, ils ont perdu, mais quand vous regardez le programme de Joe Biden et de Kamala Harris, ça va beaucoup moins loin sur la régulation des GAFA que ce que proposait Elizabeth Warren. Et je pense que les Américains ont compris que de toute
façon... C'est de l'influence.
Et oui, et puis pire encore, s'ils les démantèlent, les Chinois qui ont l'équivalent des GAFA, parfois même en plus gros, ce qu'on appelle les BATX,
avec
alors
Alibaba,
eux, ils vont pas les démanteler. Ils sont très contents d'avoir des très grosses entreprises qui vont manger la concurrence et manger le monde. Vous voyez, donc je pense qu'il y a aussi cette dimension de puissance.
Donc, les États-Unis ne vont pas nous aider, ça c'est clair.
Si ils ne vont pas nous aider, mais il faut quand même séparer les sujets. Vous avez deux sujets, comme chez nous d'ailleurs, le DSA et le DMA.
Donc le DSA, Digital Service eux, Act et le Digital Service Act,
chez eux, ça s'appelle la section 230. C'est de la même façon, c'est la loi dans laquelle ils disent aussi que leurs opérateurs techniques sont irresponsables. Et là, vous avez un consensus sur le fait de s'attaquer à ce sujet. Mm-hmm. Alors, un consensus, comme toujours à l'américaine, c'est-à-dire qu'il y a ce consensus qu'on ne peut pas rester sur l'irresponsabilité, mais la position des démocrates et la position des républicains n'est pas exactement la même. Donc, où ça va aller, je ne sais pas, mais ce qui est clair, c'est que sur l'aspect responsabilité, ça va bouger. Sur l'aspect...
concurrence, globalement,
je pense qu'on va avoir des choses sur les consommateurs, mais qu'effectivement, ils vont préserver leur puissance.
Trompez, je rectifie, Nicolas Bouzou. Est-ce qu'on va pouvoir les faire payer ou pas?
Bien sûr, on y va. Je crois que François Ruffin place les choses sur un plan moral. Et,
Il a raison. Aussi.
Oui, mais c'est facile. La vraie question, c'est que la fiscalité, elle est construite depuis un siècle pour
elle
des entreprises
adaptée,
sur des établissements physiques, pas pour des entreprises du numérique. Et donc, en réalité, il faut changer la fiscalité des entreprises. Et pour éviter l'optimisation fiscale, il y en aura toujours, mais pour l'éviter.
Amazon, ils ont des entrepôts physiques en France. Ils ont des salariés, ils font travailler des gens dans des conditions assez déplorables.
Vous ne savez pas exactement où ils vendent, vous ne savez pas exactement où ils réalisent leur chiffre d'affaires. Et donc,